Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Barbe Bleue de l'Essonne. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Séti Dali. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
Coupable, c'est ce que la justice a dit, deux fois. Innocent, c'est ce que Jamel Lelmi continue à clamer depuis sa prison. Dans un dossier pour assassinat et tentative d'assassinat, mais qui a toujours gardé des zones d'ombre.
Il n'y a pas une preuve, directe, indirecte, contre Jamel Lelmi dans ce dossier.
À l'écouter, Jamel Lelmi est une victime des femmes. Jalouse, intéressée, hystérique. Des femmes qui lui tombent dans les bras, comme des mouches.
Je l'ai rencontrée dans un sauna, dans un truc coquin. Et après, voilà, on s'est fait des petits câlins, voilà.
Il dit, moi, ma femme, s'il y avait un château, elle aurait un château.
D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur, un libertin.
Des femmes avec qui il n'a pas de chance. C'est quand même pas de sa faute si sa première femme est morte dans un accident de la route et si la suivante a failli mourir dans un accident de la route. Flash commune.
Y a pas de mal à être séducteur. C'est pas, entre guillemets, un défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne.
Le problème, c'est que chaque accident aurait fait de lui un homme riche.
Riche à millions. 8 à 12 millions d'euros, grâce aux primes des assurances d'essai qu'il faisait souscrire à ses conquêtes.
Pour la justice, le mobile de ces étranges accidents était tout trouvé. Mais comment prouver qu'elle avait peut-être affaire à un tueur en série? Un homme assez intelligent pour passer à deux doigts du crime parfait.
Julie Derouette.
Quand je suis sur le chemin pour aller à la gendarmerie ce jour-là, je suis en larmes dans la voiture parce que je me dis j'ai peur. Est-ce que je vais arriver à bien leur expliquer? Est-ce qu'ils vont me croire? Quelle enquête va être ouverte et comment ça va se passer? Quand je m'y rends, j'ai des douleurs, à m'arracher les cheveux. Je peux pas rester assise plus d'un quart d'heure parce que les douleurs sont beaucoup trop intenses. Ma greffe me fait encore très mal. Donc je me dis, j'ai eu la chance de survivre, je peux pas m'apitoyer sur mon sort. Il faut que je me batte. Et je me reposerai quand tout ça sera terminé. Je leur dis, voilà, j'ai quelque chose de très important à venir vous dire. Donc il va falloir du temps, il va falloir que vous preniez le temps de m'écouter parce que ce que je vais vous raconter, je ne vais pas vous le raconter en une heure.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Cette jeune femme, c'est Julie Derouette. Elle se présente à la brigade et au début, elle évoque une violation de domicile. Elle a le sentiment que quelqu'un est rentré dans son domicile.
J'ai été victime d'un vol sans effraction. Je rentre à la maison, je sors de chez le kiné et j'ai toujours eu la sale habitude de claquer la porte en partant de chez moi. Et là, je m'aperçois que la porte, elle est fermée à double tour. Et donc là, je rentre et je vois que tout le contenu de mon armoire, tous mes vêtements, ils sont par terre. «
disais, mais c'est quoi en fait? Pourquoi mes affaires au sol? Pourquoi rien n'est cassé? Pourquoi rien n'est volé? La personne qui est venue chez moi, il avait mes clés. C'est qui? Et en fait, en une fraction de seconde, je me dis, c'est lui, ça peut être que lui. Il n'y a que lui qui a les clés de chez moi. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il est venu faire?
Lui, c'est son petit ami. Il s'appelle Jamel Lelmi. Le couple est séparé depuis 6 mois.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Et elle dit, puis d'ailleurs, je commence à avoir même des doutes sur son implication, sur un accident que j'ai eu au mois de décembre au Maroc, donc en décembre 2009 au Maroc. En fait,
Julie raconte qu'il y a 6 mois, Jamel Lelmi a tenté de la tuer. S'il s'est glissé chez elle hier, c'est pour lui faire peur, l'empêcher de parler.
Je dis voilà, je vous raconte ce que j'ai vécu, je vous raconte mon calvaire. Maintenant, à vous de m'aider, à vous de m'aiguiller. Je ne sais pas quoi faire avec mon récit. Et c'est grave ce qu'il a fait. Pour moi, il a tenté de me tuer. Je veux déposer plainte contre Jamel Lelmi pour tentative de meurtre.
D'une simple plainte pour vol, voilà que le discours glisse vers une tentative d'assassinat. La jeune femme a 26 ans, 2 enfants, et elle n'a pas l'air d'affabuler. Incontestablement, elle souffre toujours des blessures causées par son accident de 2009. Pour autant, la gendarme doit-elle croire cette histoire rocambolesque? Une histoire qui commence comme un conte de fées le 20 décembre 2009, à 2500 km de Paris. Ce jour-là, Julie Derouette s'est envolée pour Marrakech, pour y rejoindre son nouvel amoureux, parti la veille.
Julie Derouette.
Il me dit, voilà, si je pars pas en même temps que toi, c'est parce qu'en fait, il faut que je prépare ton arrivée. L'arrivée d'une princesse, ça se prépare. Il va m'emmener dans son pays, il va me présenter à sa famille. Donc ça y est, la vie, entre guillemets, de femme, pour moi, va se réaliser. Ça y est, je vais enfin vivre mon rêve et je vais me marier.
Le Maroc n'est qu'une première étape. Jamel avait prévu de présenter officiellement sa princesse à ses grands-parents, en Algérie.
Quand j'arrive, je sors de l'aéroport et je le vois pas. Donc je récupère ma valise et là, ça m'énerve. Parce que je me dis, il est censé accueillir sa princesse, il est où?
Donc elle se rend seule à l'hôtel Royal Mirage, à Marrakech. Et elle attend que Jamel Lelmi vienne la rejoindre.
Il m'avait donné 500 ou 600 euros en espèces. Il m'avait dit, tu vas là-bas, c'est un super grand hôtel, machin. Donc je me dis, bon, bah, je vais profiter un peu, je vais prendre soin de moi. Je ne l'ai jamais fait, je vais tester. Sauf qu'il n'est toujours pas là.
Julie a aussi loué une voiture, comme prévu, pour traverser la frontière le soir même. Mais l'heure tourne. Déjà 20h. Et toujours pas de Jamel.
Puis là, je pleure, ça m'énerve. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, il est où? J'arrive pas à le joindre. J'essaie de le joindre du téléphone de l'hôtel. C'est répondeur. Je dis, je comprends pas. Je dis, franchement, là, par contre, il y a quelque chose. C'est pas possible. Il lui est arrivé quelque chose. Je fais les 100 pas dans l'hôtel. Je redescends, je remonte. Et là, je le vois toujours pas. Je me dis, alors là, si dans limite, dans les une demi-heure, une heure, il est pas là, c'est fini. Demain matin, je rentre en France. C'est terminé.
21h. 22h, 23h, quand enfin, on frappe à la porte.
Julie Derouette.
Et c'était lui. Alors là, j'étais prise entre deux, alors je l'insultais, je le tapais, je criais dessus, je pleurais tout ce que je voulais.
Mais Jamel sait se faire pardonner.
Il se met à genoux et dans sa main, il y a une boîte avec un solitaire, une très belle bague. Voilà, maintenant, est-ce que tu acceptes ma demande en mariage? Est-ce que c'est bon? Je peux te passer la bague au doigt? Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pleuré, hein.
Pas de temps à perdre. Le couple prend la route, chacun dans sa voiture.
On démarre chacun de notre côté pour aller vers la frontière qui était censée être à 150 km.
Jamel roule devant, Julie derrière. Le doudou de sa fille sur le tableau de bord.
Moi, je le suis. Donc, il roule. Et deuxième rond-point, je le perds de vue. Je regarde, je dis, mais il est où?
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Elle essaye de le rattraper, donc elle est sur une route non éclairée qu'elle méconnaît. Elle va sentir quelques chocs à l'arrière de son véhicule. Donc elle sent qu'on essaye de la percuter.
Là, je suis complètement hystérique dans la voiture. Donc je crie, mais Jamel, mais t'es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Et donc je suis tamponnée.
Elle expliquera qu'après une succession de chocs, elle fera des tonneaux et elle quittera la chaussée à l'issue de l'accident.
J'ai pas le temps de réagir, de tilter ou de sortir de la voiture. Tout de suite, en fait, je sens que quelqu'un monte. En fait, côté passager, il me maintient les bras en croix, bien comme ça. Pendant que celui qui me tire les cheveux dehors, en fait, me coince la tête dans le volant. Et là, ma scène, coup de poing. Et mes bras, en fait, sont complètement immobiles. Je peux pas bouger, je suis attachée dans la voiture.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
Un autre individu lui met un liquide dans la bouche qui pourrait peut-être être de l'alcool. On ne sait pas trop s'il y a un ou deux agresseurs ou s'il y en a plus. Donc c'est quelque chose de très confus.
Je reçois des dizaines et des dizaines de coups de poing au niveau de la nuque qui craquent. Et ma tête est tombée en avant, mais d'un coup. Donc comme vraiment un pantin, tout mon corps s'est raidi et est devenu tout mou en une fraction de seconde. C'est un moment où on se dit on va mourir.
Le lendemain matin, à l'hôpital de Marrakech.
Je me réveille, Jamel il est sur mes bras, sur mes jambes, il enlace mes deux jambes, il pleure. Et moi je me dis, mais je suis où? Pourquoi je me retrouvais dans un lit où je ne pouvais pas bouger? Et il me dit, tu te rappelles pas? Et je lui dis, mais je me rappelais de quoi? Et il me dit, on a fait du ski, t'es tombé. Je lui dis, du ski? Je lui dis, je déteste le ski, je déteste le froid. Et pourquoi je serais venue à Marrakech faire du ski? Marrakech, on y va pour le soleil, pas pour la neige.
Julie est grièvement blessée. Ses cervicales sont fracturées en deux endroits.
Je comprends que je suis paralysée. Parce que la moelle épinière, elle a été touchée. Et que si on me touche et qu'on me bouge et qu'on, entre guillemets, me secoue, je peux mourir.
Julie est opérée en urgence. Mais son pronostic vital est engagé.
Thierry Derouette, le père de Julie.
En fin de compte, on a appris ça le lundi matin. Le mercredi, on prenait l'avion pour le Maroc. Excusez-moi, même 10 ans après, je suis encore ému. C'est cette image que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Je vois ma fille allongée avec un drap jusque-là, quoi. Pour moi, elle est morte, elle ne bougeait pas, rien. Bah c'est cette image-là depuis 10 ans. Je n'arrive pas à m'en séparer.
Rapatriée en France, Julie va encore subir 4 opérations.
Elle avait du mal à manger, elle ne pouvait pas se laver, c'est mon épouse qui la lavait. Elle était handicapée, c'est vrai. Très handicapée.
J'ai un espèce de corset qui, pour moi, c'est un instrument de torture. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie de femme, j'ai plus de vie de maman. Ma vie, elle s'est arrêtée le 20 décembre 2009.
Jamel, lui, a disparu de la circulation.
J'espère. J'espère qu'il va venir. J'espère qu'il m'aime encore. Et je me disais, mais il va revenir. Et je disais à ma mère, mais tu vas voir, il va venir. Il me l'a dit, il me l'a promis, tu verras, il va venir. Et il n'est jamais venu.
Voilà maintenant 3 heures que Julie raconte son histoire à la petite brigade d'Aigli.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
Sur l'instant, ça peut paraître un petit peu douteux. On peut se poser des questions en fait sur la véracité de ce qu'elle dit. Les propos sont assez hallucinants en fait. Il lui a fallu plus de 6 mois pour s'en apercevoir.
Pourquoi Jamel Lelmi aurait-il tenté de la tuer et de la cambrioler?
J'ai dit, je sais ce qu'il est venu chercher, mais je sais.
Julie a eu un déclic. Le mobile, le voilà. C'est ce contrat. qu'elle pose sur le bureau de la gendarme.
Dominique, ce contrat, c'est une assurance d'essai. Et Julie Derouette en a signé 4. Mmh. Assurance d'essai, à ne pas confondre avec des assurances vie.
Qui sont des placements financiers.
Là, c'est à fonds perdu.
Ouais.
Sauf pour le bénéficiaire en cas de décès du souscripteur.
Oui, et ces contrats, les voilà. Hein. Julie Derouette, elle en a signé chez Generali, Cardif, Prévindi, Alliance. Et elle va les retrouver chez elle dans un placard. Alors, il faut quand même préciser que des gens qui prennent des assurances d'essai, ce sont des gens qui exercent la plupart du temps des professions à risque. Des athlètes de haut niveau, des pilotes de chasse, pilotes de voltige, des militaires des forces spéciales. Bref, des gens qui veulent protéger leurs conjoints, protéger leurs enfants si un malheur intervenait.
Mais ça, ça colle pas du tout avec le profil de Julie Derouette.
Pas du tout. Julie, elle a 26 ans. Elle est sans boulot. Elle a 2 enfants à élever, elle est mère célibataire. Si elle prend une assurance d'essai, d'ailleurs ce serait surprenant, bah elle désigne ses enfants comme bénéficiaires, pas de Jamel Lelmy. Ça n'a aucun sens.
D'autant que ce n'est pas le père de ses enfants et qu'ils se sont fréquentés que pendant 2 mois.
Oui, et vous allez voir, il y a une clause supplémentaire, quelque chose qui est encore plus curieux. C'est que dans tous les contrats qu'a signé Julie Derouette, il y a une clause spéciale qui stipule que si elle meurt accidentellement, accident de la route, la prime est augmentée. Jamel Lelmy peut toucher jusqu'à 8 millions d'euros.
Mais alors, pourquoi elle a signé ces contrats?
Elle est confuse. Jamel lui a demandé de signer, elle a signé sans comprendre.
Dans la petite brigade d'Aigli, la jeune gendarme qui prend la déposition de Julie Derouette sent que l'histoire la dépasse. Coup de chance, ce jour-là, des collègues de la section de recherche de Paris sont dans les locaux. Elle va leur en toucher 2 mots.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Elle prononce le nom de Lelmy. Et là, donc un camarade, Thierry, a vraiment une réaction stupéfaite. Et il dit, je me rappelle bien, il dit ah, « ça recommence ».
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
En janvier 2007, son épouse a été victime d'un accident de la circulation routière. Elle est décédée lors de cet accident. Et il a touché des assurances d'essai, un montant d'environ 1 200 000 euros.
Les gendarmes remettent la main sur le dossier d'enquête et se plongent 3 ans en arrière. Le 30 janvier 2007, à 21h, des collègues ont été appelés pour un accident sur la départementale 117. Une jeune cycliste venait d'être renversée par une voiture. Tandis que les pompiers transportaient Kathleen Vasseur à l'hôpital, les gendarmes ont interrogé les témoins, tous arrivés après l'accident. À l'exception du mari de la victime, Jamel Lelmy. L'homme a expliqué que le couple venait d'acheter un vélo à Kathleen, quasiment à la fermeture du magasin, et que Kathleen était pressée de l'essayer. Ils ont donc pris la route, ensemble, dans la foulée. Direction Leudeville.
Il fait nuit noire. La route n'est pas éclairée.
Lelmy Jamel n'a pas du tout d'optique sur son VTT.
Et pas de chance. En passant dans un nid de poule, le phare avant du vélo de Kathleen se décroche.
Elle n'a donc sur son vélo que l'optique arrière, cette lumière rouge. Et elle circule devant Jamel, le long de la chaussée.
2 véhicules donc circulant à vive allure les dépassent. Et le 2e véhicule se rabat juste après Jamel, percute Kathleen.
La voiture prend la fuite. Kathleen est inconsciente.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
À ce moment-là, Lelmy Jamel, pour protéger son épouse et éviter qu'elle ne un suraccident, décide de mettre le corps de Kathleen dans le fossé juste à côté.
Quand Jamel a vu une voiture faire demi-tour pour revenir vers eux, il est ressorti du fossé pour appeler à l'aide avant de retourner s'allonger près de sa femme.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Il apparaît en procédure que Kathleen était sur le ventre.
et que Jamel était donc positionné sur elle.
Il est assez virulent, il repousse à plusieurs reprises les personnes qui souhaitent intervenir.
Parmi les témoins, une infirmière et un pompier volontaire tentent de secourir Kathleen.
Il a refusé leur aide et il a fallu qu'il se mette à plusieurs hommes pour physiquement le séparer de son épouse.
Quand les pompiers sont arrivés, Kathleen Vasseur était en arrêt cardiaque. Les pompiers l'ont ranimée. Mais quand sa mère est arrivée à l'hôpital, sa fille était en état de mort cérébrale.
Brigitte Thépeau, mère de Kathleen Vasseur.
J'arrive et j'ouvre la porte. Alors bien sûr que c'est dur parce qu'elle est branchée de partout puisqu'ils ont elle a un respirateur et tous les organes donc sont reliés. Mais elle est belle. Elle est belle. Elle a un visage, elle a rien. Elle a un beau visage, elle a une petite égratignure sur le menton, rien du tout. Et je vois quelqu'un donc qui est à côté d'elle, prostré sur elle, avec les deux bras de ma fille sur lui, le visage enfoui dans ma fille. Et voilà, c'est voilà la scène que je vois en arrivant. Je ne le connais pas, moi, ce garçon, je n'ai jamais vu.
L'homme se présente alors. C'est le mari de sa fille.
Il y a toutes les radios, il y a tous les examens qui ont été faits sur Kathleen. Et je vois bien donc Kathleen, l'ami. Elle a un passeport, elle a une carte d'identité, elle a tout refait faire ses papiers, voilà. Donc il n'y a plus du tout son nom qui apparaît de naissance.
De ce mariage clandestin noué 6 mois plus tôt, la mère de Kathleen ne saura rien de plus. Sa fille est morte après une semaine de coma le 6 février 2007.
Je ne pouvais pas admettre qu'elle ait eu un accident de circulation. Je me dis, elle avait tout pour vivre, Kathleen, tout. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas un accident de circulation.
À la mort de Kathleen Vasseur, les gendarmes ont bien ouvert une enquête. Le mari, Jamel Lelmi, a pu donner des informations sur la voiture qui avait percuté Kathleen. Une Clio grise que les gendarmes ont retrouvée à 1 km de l'accident.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Et effectivement, dans cette enquête, on a un véhicule qui présente des traces et des impacts. L'expertise conclura que le véhicule accidenté retrouvé à Ledeville puisse être le véhicule à l'origine du décès de Kathleen Vasseur.
Une voiture volée, un chauffard disparu. L'enquête a été classée sans suite.
Brigitte Thépeau, mère de Kathleen Vasseur.
Bon là, les bras m'entombent un peu, quoi. Je dis bon, ben... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle, pour Kathleen, quoi? Parce que là, je dis, moi, c'est fini. Ma fille, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Elle ne reviendra plus.
Kathleen morte, Jamel Lelmi est devenu riche. Très riche. À 29 ans, le veuf a empoché 1 700 000 euros. Les primes des assurances d'essai que son épouse avait souscrites. À la lecture en 2010 du dossier de 2007, les gendarmes d'Aigli ont clairement un sentiment de déjà-vu.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris.
Effectivement, on a quand même deux accidents qui ont de fortes similitudes. On est sur des routes non éclairées, des accidents qui sont de nuit. On a des contrats d'assurance d'essai avec de grosses primes, avec pour unique bénéficiaire l'Elmi Jamel.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
On n'est pas sur une loi des séries, mais c'est quelque chose qui ne nous paraît pas fréquent. Ça peut être une coïncidence, ça peut avoir aussi une origine criminelle.
Le parquet se saisit de l'affaire et confie le dossier à la section de recherche de Paris, qui va enquêter très discrètement. Pas de casier, pas de problème. Un type bien, ce Jamel Lelmi.
Jamel Lelmi est né de parents immigrés d'Algérie. Il a grandi et vit toujours à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
C'est le quatrième donc, d'une famille de 6 enfants, une famille bien implantée localement à Brétigny.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Son père est imam. Il a des sœurs qui sont également respectées, bien implantées.
Bon élève, Jamel Lelmi est devenu professeur en génie industriel dans un lycée professionnel. Et l'enseignant présente des appréciations plutôt élogieuses.
Oui, c'est une belle réussite. Il a obtenu des diplômes qui le situent à un niveau Bac plus 5 avec les années d'IUFM.
C'est monsieur tout le monde, en fait. Et on ne trouve rien de particulier le concernant à ce moment-là.
Ce qui frappe les gendarmes pendant leurs écoutes et leurs filatures, c'est que Lelmi semble avoir fait de la salle de sport sa deuxième maison.
Il a un culte réel du corps. On sent qu'il aime aussi montrer qu'il a beaucoup de respect pour son corps.
Et manifestement, la salle de musculation est aussi le terrain de chasse de ce beau gosse.
Dans l'ensemble, toutes ces femmes sont très marquées par Monsieur Lelmi. Il laisse pas indifférent.
Effectivement, il peut créer une certaine fascination, mais positive. Il subjugue un petit peu par son aura vraiment naturelle.
Et pour séduire, Jamel Lelmi ne lésine pas. Sac de luxe, bijoux, la carte bancaire chauffe souvent.
On s'apercevra que son train de vie change complètement à partir du moment où il touche le bénéfice des primes d'assurance décès de Kathleen Vasseur.
Il a acquis des biens immobiliers. Donc il est à la tête d'un patrimoine immobilier, oui, qui s'élève à plus d'un million d'euros. Ça, c'est avéré.
Jamel a acheté deux studios, une maison pour ses parents, un quad, un jet ski. Et il multiplie les voyages. New York, le Maroc, les Antilles. Toujours avec la même femme.
Céline, c'est la compagne de toujours de Lelmi Jamel. Ils vont se paxer, se dépaxer. Jamel va se marier avec Kathleen Vasseur. Puis ils vont à nouveau se paxer et se marier religieusement après le décès de Kathleen Vasseur. Donc c'est vraiment la personne qui est en permanence dans la vie de Lelmi Jamel.
Quand il était dans une relation installée avec Céline, effectivement, on sait, de temps en temps, il y avait ce libertinage. Il a deux sortes de vies. Il y a une vie officielle, on a quelques relations officieuses.
Une double vie qu'il mène aussi du côté du boulot. Pour l'éducation nationale, Jamel est en congé maladie. En réalité, il gère un parc de jeux pour enfants qu'il a financé avec l'argent des assurances. Un parc dont l'inauguration a attiré les journalistes d'une télé locale.
On peut se retrouver aussi avec les parents qui accompagnent leurs enfants quand c'est un peu plus calme, on va dire.
Mais aussi d'une maman de la région.
Julie Derouette.
Pourquoi pas le tester ? Les enfants étaient encore petites. Ma grande avait 5 ans à l'époque et la petite 1 an et demi.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
L'idée, c'est de passer une bonne journée. Et puis, à un moment, elle va faire chauffer le biberon de sa petite.
Et donc là, je sens un bras qui me tire délicatement et qui me prend le biberon de ma fille des mains. Et je me retourne et je lui dis « Mais vous êtes qui ?» Et il me dit « Bonjour, je m'appelle Jamel, je suis le patron de Coco Island. Donnez, je vais vous faire chauffer le biberon de votre bébé. » C'est peut-être pas mon type d'homme de base, mais sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon d'être avec moi a fait que je suis tombée dedans complètement.
D'habitude, elle voit des garçons qui jouent les gros bras, mais qui en réalité sont capables de prendre aucune responsabilité et qui penseront qu'à une chose, c'est accoucher avec elle. Là, on est aux antipodes. Donc il est grand seigneur, il est d'une générosité comme ça. Puis alors il arrive le matin, il a les croissants, les filles lui sautent au cou, il a toujours un petit cadeau pour les filles.
Il est trop parfait, quoi, trop gentil. Je disais, oh tiens, j'aimerais bien voir ça. Le soir, j'avais. Enfin voilà, je veux dire, Et plusieurs fois, il arrivait avec des sacs de luxe, enfin des choses qui valent une paye, plus qu'une paye. Et je dis, mais j'en veux pas de tes trucs, en fait. Moi, je suis pas comme ça. Je dis, tu m'achèteras pas. Il me dit, mais t'as pas compris, c'est que le début de ton conte de fées. Il dit, moi, ma femme, si elle veut un château, elle aura un château.
Au bout d'un mois, un mariage est déjà dans l'air. Mais leur histoire doit rester secrète.
Notre relation, elle n'était pas du tout officielle, elle était officieuse. Et ils m'avaient bien fait comprendre qu'en fait, chez eux, chez les Arabes, pour que ça soit officiel, faut être marié ou faut avoir le consentement des grands-parents.
Donc, il faut l'emmener en Algérie. Il faut qu'elle voie ses grands-parents. Et quand ils la verront, ils tomberont sous son charme et tout ira très bien. Mais le problème, c'est que l'Algérie, il faut un visa pour y aller. L'Algérie n'acceptera de te délivrer un visa que si tu es assuré. Voilà. Et donc, ainsi, on va contracter des assurances pour pouvoir partir en Algérie.
À la demande de Jamel, Julie se rend donc chez des assureurs.
À ce moment-là, je pense que je suis éperdument amoureuse de lui, donc je fais confiance à 2000%. Je me pose aucune question, j'ai OK, je signe où ? Donc en fait, hormis avoir rempli mon nom, mon prénom, mon adresse et signé, je ne sais même pas ce que contiennent ces contrats, je ne sais pas. Et lui m'avait bien expliqué et m'avait dit, surtout quand tu souscris les contrats, il faut que tu les demandes à les doubler, voire les tripler, en cas de décès accidentel.
En un mois, elle souscrit 4 assurances d'essai dans 4 agences différentes, toutes au bénéfice de Jamel, qui est susceptible de toucher 5 millions d'euros à la mort de Julie et jusqu'à 8 millions si elle meurt dans un accident.
Quand je signe ces contrats-là, pour moi, c'est de la paperasse, en fait. Je pensais pas du tout une seule seconde qu'à ce moment-là, le contrat que je signais, c'était le prix de ma vie.
Et un mois plus tard, Julie de Rouette frôlait la mort sur une route marocaine.
Au bout de 10 jours d'enquête, les gendarmes ont toutes les raisons de croire que Julie n'est pas en train de les mener en bateau. Et s'ils avaient encore un doute, le coup de fil d'une compagnie d'assurance va le lever définitivement.
Il est 11h30, le 24 juin 2010, quand l'un des assureurs de Julie Derouette appelle la section de recherche.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Magnolia Web Assurance va nous contacter en nous disant « Nous venons à l'instant d'être concernés par une demande de contrat d'assurance d'essai avec pour bénéficiaire Monsieur Lelmi Jamel. »
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Jamel Lelmi est de nouveau le bénéficiaire unique de plusieurs contrats d'assurance d'essai, souscrit par une jeune femme qui se prénomme Karine. Et pour des sommes très impressionnantes, qui dépassent le million d'euros.
Les gendarmes convoquent donc cette femme sur le champ.
À partir du moment où on s'entretient avec elle, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. On découvre une personne très, très fragile.
Elle est quasiment presque illettrée. Donc, effectivement, on se dit, mais comment une personne qui a autant de difficultés avec la lecture a-t-elle pu comprendre seule ce genre de documents et les signer, je dirais, en connaissance de cause ?
Karine souffre de troubles cognitifs sévères.
J'ai le cerveau qui a un peu ralenti. J'ai du mal de comprendre. De temps en temps, il faut me le répéter plusieurs fois. J'étais renversée par un autobus sur le passage piéton quand j'ai traversé la route. J'étais très petite, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Je suis dyslexique et de temps en temps, j'ai du mal à lire. C'est des lettres qui se mélangent et je veux aller trop vite et des fois, je commence à paniquer quand je lis.
Ces contrats, Karine reconnaît bien les avoir signés. Mais à la demande de Jamel Lelmi. Elle raconte qu'elle l'a rencontré un an auparavant à Pigalle.
Je l'ai rencontré dans un sauna, au Moon City, dans un truc coquin. Et après, voilà, on s'est fait des petits câlins, plein de petits trucs. Bah, c'est un beau garçon. Il prend soin de lui. Il est très baraqué. Il est bien bâti. De tout.
À 37 ans, Karine gagne tout juste le SMIC comme vendeuse. Jamel lui promet la belle vie et lui envoie des selfies plutôt explicites.
Les photos qu'il m'avait envoyées sur le téléphone, puis avec des liasses de billets, comme quoi il avait plein d'argent. Des gros billets, je crois, c'était des gros billets de 500 euros. Des grosses liasses qu'il avait sur lui. Ouais, j'étais un peu influençable, parce que moi, j'en avais pas beaucoup d'argent.
Il y a un mois, Jamel l'a emmené dans un cybercafé de Juvisy pour y signer ses contrats.
Il m'avait dit que c'était une preuve d'amour, comme quoi il m'aimait bien. C'est lui qui me dicte tout, ce que je dois faire, parce que moi, je ne sais pas écrire. Et il me disait comment il fallait faire ça, cocher. Moi, je cochais, sans lire. Après, il redemande des feuilles à la machine, et je refais la même chose, sur toutes les feuilles. Moi, je comprends rien du tout, moi, je fais. Je sais même pas, je connais même pas les papiers.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Karine nous dit qu'elle se souvient qu'il a fait en sorte de ne jamais toucher les documents, qu'il fallait que ce soit vraiment elle qui les remplisse malgré ses difficultés. Effectivement, ça suscite des interrogations sur la démarche.
En 2 heures, 4 contrats pour un capital d'essai total de 3 200 000 euros. Et si Karine se trouvait elle aussi dans le viseur de Jamel Lelmi ?
Des assurances d'essai à foison. Des millions comme s'il en pleuvait. Ça fait un mobile, mais pas un tueur. La justice ouvre une information pour assassinat sur Kathleen Vasseur et tentative d'assassinat sur Julie Derouette. Mais si Jamel Lelmi a tué, tenté de tuer ou projeté de tuer, il va falloir le prouver. Pour commencer, la juge décide d'enquêter sur l'accident de vélo dans l'Essonne. Mais toujours très discrètement.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Quand j'ai regardé le dossier de cet accident, le point qui m'avait le plus étonné, voire même un peu choqué, c'est la position qu'a Kathleen dans le fossé, c'est-à-dire où elle est allongée face contre le sol. Alors que son époux est censé essayer de la sauver. On se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette scène quand on la visualise.
Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
Vous avez des témoins d'ailleurs qui expliquent avoir tenté de le saisir par le bras pour desserrer l'étreinte, le faire se lever et permettre la prise en charge, et qui décrivent un Jamel Lelmi totalement résistant à ces gestes-là.
Quand je vois également le gabarit de Kathleen, grande mais assez fluette, donc je me dis, mais ce gabarit imposant sur elle, elle ne peut pas respirer dans cette position-là. Elle ne peut pas respirer. Donc la question était de savoir si cette position de M. Lelmi sur elle, c'est volontairement qu'il a appuyé sur elle ou pas. Mais ça pouvait en tout cas ouvrir cette porte de est-ce qu'elle n'est pas décédée d'une asphyxie de type mécanique.
À la mort de Kathleen Vasseur, aucune autopsie n'a été ordonnée. Mais la juge peut s'appuyer sur le rapport médical de l'hôpital.
Ce qu'on appelle le bilan lésionnel externe de Kathleen Vasseur était extraordinairement faible, atypiquement faible pour une jeune femme qui venait de se faire renverser par une voiture.
C'est quand même surprenant qu'elle n'ait pas de fracture, elle a juste une dermabrasion au niveau du genou, donc elle a pas des lésions qu'on constate généralement sur un accident de cette violence qui aurait entraîné son décès par la suite.
Une mort accidentelle suspecte et une relation amoureuse très curieuse. Jamel et Kathleen se sont mariés 5 mois seulement après leur rencontre dans leur immeuble de Brétigny-sur-Orge. Un mariage éclair entre deux témoins.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Et ces deux témoins, c'est un couple qu'il a rencontré avec Kathleen au club de sport, avec lesquels il n'y a pas de relation particulière.
Brigitte Thépeau, mère de Kathleen Vasseur.
Et là, ça, en plus, quand vous découvrez que votre fils est marié avec deux témoins qu'elle ne connaissait pas, qui sont allés manger une pizza aux Champs-Élysées, il y a de quoi être un peu quand même choqué, quoi.
Plus elle est dans cette relation avec Jamel Lelmy, dans une situation de jeune mariée, plus on voit Kathleen qui décline.
Maître Jean Boudeau, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
Les amis de Kathleen Vasseur décrivent quelqu'un qui devient un peu dépressif. Elle va d'ailleurs être en arrêt maladie à la suite justement d'un début de dépression.
On voit vraiment que Jamel Lelmy a totalement isolé, en manipulant Kathleen, de tout son entourage amical et familial, parce qu'elle en avait un entourage familial et amical.
Kathleen a signé ses premiers contrats d'assurance décès quelques jours après son mariage. 4 contrats. Une première pour elle, et surtout, une dépense exorbitante.
Le montant des primes représentait 17% de son revenu annuel, elle qui était conseillère à la NPE. Donc non, Kathleen Vasseur n'est évidemment pas à l'origine de la souscription de ses assurances décès.
Pendant l'enquête de 2007, Lelmy a prétendu qu'il ignorait l'existence de ses contrats. Mais en 2010, l'analyse de ses comptes a fait apparaître le contraire.
Les prélèvements de ces primes sont prélevés soit sur leur compte commun, soit sur le compte personnel de Jamel Lelmy. Donc il ne peut pas dire « je ne suis pas au courant de l'existence de ces contrats ». Bien sûr qu'il savait, c'est sur son compte. Se retrancher derrière l'idée de dire « je ne suis pas au courant parce que moi je ne consultais pas mes comptes », ce n'est pas crédible.
Qui conduisait la voiture qui a renversé Kathleen Vasseur? Est-ce que Jamel Lelmy l'a étouffée en se couchant sur elle? La juge ne peut toujours pas répondre à ces questions. Alors elle ordonne l'exhumation du corps et des expertises. Dans le même temps, elle lance une enquête au Maroc pour en savoir plus sur l'accident de Julie Derouette. Quand un événement va précipiter les choses.
Depuis quelques jours, les écoutes téléphoniques de Jamel Lelmy sont inquiétantes. L'homme multiplie les coups de fil aux assurances. Il veut savoir où en sont les contrats signés par Karine.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
L'opératrice va dire que c'est un client extrêmement pressant. Donc on sent en fait que Jamel Lelmy, il est pressé que les contrats soient finalisés. Un tel empressement, c'est inquiétant.
Les gendarmes avertissent l'assurée, Karine, qui ne se méfie de rien.
Il m'a dit que j'étais belle, j'étais sa princesse, qu'il ne me ferait jamais de mal. Si j'avais besoin de quelque chose, il était tout le temps là pour moi.
Elle est totalement sous son emprise. Elle n'avait pas conscience qu'elle pouvait être en danger et qu'il pouvait s'intéresser à elle que parce qu'elle représentait potentiellement un gain financier à terme.
Jusqu'à ce que le 22 juillet, les gendarmes qui ont placé Jamel Lelmy sur écoute interceptent une conversation qui ressemble bien à un piège.
Il m'a demandé si je voulais partir en vacances quelques jours avec lui. Pour me reposer, ça me ferait du bien.
T'as besoin de vacances, dit Jamel. Oui, peut-être, si, peut-être. Et il insiste. Mais si, tu as besoin de te reposer.
Je voulais que je quitte mon boulot, tout ça. Et que je me mette en arrêt maladie.
Un voyage avec Karine. Cette fois, plus question d'attendre. Les gendarmes foncent interpeller Jamel Lelmy. Placé en garde à vue, Jamel Lelmy ne semble pas surpris. Il se montre même courtois. Les gendarmes lui signifient les motifs de son interpellation. Assassinat sur son épouse, tentative d'assassinat sur Julie Derouette et enfin, vol à son domicile.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Il tique, il réagit sur le vol. Et il ne réagit pas sur assassinat ou tentative d'assassinat. Je dis, tiens, c'est étonnant qu'il n'y a que ça qui le choque. Je pensais qu'il y avait plus grave.
Mais en garde à vue, où il passe 48 heures, et chez la juge qui le met en examen, Jamel Lelmy a toujours les mêmes réponses. La mort de Kathleen Vasseur? Un trou noir. Il ne se souvient de rien. La perte de sa femme l'a traumatisé. En revanche, sur l'accident de Julie Derouette au Maroc, Jamel Lelmy se montre très offensif.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Il nie tout en bloc. Il va même jusqu'à dire qu'elle le harcelait, qu'il n'était pas du tout amoureux d'elle, que c'était elle qui, au contraire, venait régulièrement à Cocoa Island pour le harceler.
Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris.
Il fait juste état d'une fois où il a cédé légèrement, mais que c'est une relation sans lendemain, qui n'a pas été satisfaisante pour lui et qui préférait rester bon ami avec elle.
Jamel Lelmi construit maintenant sa défense. Et l'enseignant a des arguments.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016.
Elle est la seule à y croire à une histoire d'amour. Pour Jamel, c'est un flirt. On a vu une femme possessrice, jalouse, et qui veut s'accaparer absolument de Jamel Lelmi, qui ne s'intéresse pas plus à elle que cela.
Dans le portable de Julie, les gendarmes retrouvent des centaines de messages. Je t'appelle à 10h et je tombe sur le répondeur. Viens, dépêche-toi, j'ai trop chaud. 976 messages à Jamel en seulement 2 mois. Je veux te câliner et t'apprivoiser. Viens s'il te plaît, j'ai envie d'être serré dans tes bras. Alors tu viens? Tu vas m'énerver, appelle-moi. Le lendemain. Putain, mais décroche. J'en peux plus, j'en ai marre.
Elle l'a harcelé par ses textos. C'est peut-être de son côté une forme de cri de désespoir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un comportement particulier.
Un harcèlement que Jamel Lelmi peut aussi prouver. Avec ces 3 lettres que Julie Derouette lui a envoyées. C'est dommage que tu ne veuilles pas de moi, car je sais que tu aurais été heureux. Je peux t'aimer même si tu me rejettes et que tu ne veux pas de moi. Je sais que mes sentiments ne sont pas réciproques. Interrogée, Julie explique que ces lettres, oui, elle les a écrites. À la demande de Jamel Lelmi.
Il fallait que sa mère tombe dessus, qu'elle les lise et qu'elle voit que j'étais très très amoureuse de son fils et que comme sa femme était décédée, il fallait que je prouve par ces fameuses lettres que j'étais à la hauteur de l'amour de son fils.
Vous imaginez 2 secondes la scène? Et vous imaginez cette jeune femme ne pas percuter et dire « Mais qu'est-ce qui me fait écrire sous la contrainte ?» Mais enfin, qui peut croire à des histoires pareilles?
Tu ne m'aimes pas, mais je vais te prouver que je suis celle qu'il te faut.
À la lecture de ces lettres, on sent que c'est un amour à sens unique. Jamel ne l'aime pas, mais elle s'accroche jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand une femme croit qu'elle est amoureuse, l'amour tue l'esprit critique. L'amour rend aveugle. Donc elle a pu s'auto-aveugler de ses propres croyances.
Julie, une folle, une mytho, qu'il n'a jamais invité au Maroc. C'est elle qui le poursuivait. Pour preuve, la lettre de Julie. J'espère bien te trouver. J'ai ta photo, ton nom, la ville où tu es. Et s'il le faut, j'engagerai un détective.
Ce qui est certain, c'est qu'elle a cru à une histoire d'amour qui n'était pas réciproque. Ce qui est certain, c'est qu'elle part au Maroc alors qu'elle n'était pas ni voulue ni désirée à ce voyage et que Jamel ne voulait pas la voir.
C'est par jalousie que Julie a inventé toute cette histoire, y compris sa pseudo-agression.
Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016.
Elle a 2 cervicales brisées, c'est indéniable. La seule question, c'est qui lui a brisé. Est-ce qu'elle s'est brisée dans un accident de voiture? Est-ce qu'elle a été attaquée par des inconnus? Mais la psychologie ou les éléments psychiatriques de cette femme n'ont peut-être pas été suffisamment explorés parce que peut-être celle-ci nous a baladés dans sa propre folie et d'une certaine manière ce qui fait aussi ses angoisses. Ce qui est certain, c'est que la preuve matérielle, là non plus, n'existe pas.
À l'écouter, Jamel Lelmi est victime des femmes et de leurs mensonges. Et Karine n'échappe pas à la règle. C'est une droguée, une fille facile qui a abusé de sa confiance. Les 4 contrats signés au cybercafé, c'est elle qui les a exigés. D'ailleurs, lui aussi en a signé à son profit. 5 exactement.
Cette jeune femme fréquente des clubs échangistes. Elle a donc une vision très précise de ce qu'elle veut pour elle-même. Je ne dis pas qu'elle ment, je dis que elle présente les faits d'une manière qui forcément interpelle.
Accusé à tort, Jamel Lelmi, par des menteuses, hystériques, érotomanes ou jalouses, faute de preuves matérielles, c'est parole contre parole.
La juge d'instruction prend alors une décision rare. Elle demande à une psychologue et un psychiatre d'expertiser les victimes. En clair, elle veut savoir si Julie Derouette et Karine ne sont pas un peu frappées, quoi.
Ouais. Alors, Julie Derouette d'abord, hein. Trois choses intéressantes. Les experts disent, un, qu'elle ne souffre pas d'un trouble de la personnalité ou d'une pathologie mentale avérée. Elle n'est pas folle, elle ne souffre pas d'érotomanie, elle ne souffre pas de mythomanie au sens psychiatrique du terme. Deuxième point, Julie Derouette souffre en revanche d'un stress post-traumatique bien légitime. Elle a eu peur de mourir. Troisième chose, c'est une femme intelligente et l'expert se demande comment elle a pu faire preuve d'autant de naïveté envers le mis en examen, autant de confiance anormale envers Jamel Lelmi.
Ah, parce qu'elle a quand même signé 4 assurances décès.
Oui, mais l'un des experts explique ça en ajoutant dans l'expertise, les contrats signés en sa faveur montrent l'emprise que cet homme avait sur elle.
Femme naïve et fragile, c'est aussi le profil de Karine, qui elle aussi a été expertisée alors qu'elle n'est que témoin dans ce dossier.
Oui, mais c'est un témoin clé, parce que son histoire à elle pourrait illustrer les actes préparatoires de Jamel Lelmi au passage à l'acte. Alors, d'elle, les experts disent qu'elle présente un léger retard mental, des capacités de jugement et de raisonnement altérées, des difficultés à s'orienter dans le temps et dans l'espace, des difficultés à lire, à compter, à écrire. C'est une personne qui souffre d'un handicap psychique et c'est surtout une personne qui est très facilement et particulièrement influençable.
Des femmes influençables sous la coupe d'un stratège de la séduction. C'est ce que découvrent les gendarmes quand ils examinent l'ordinateur portable de Jamel Lelmi.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
On verra des échanges réguliers de SMS avec des contenus très séducteurs, des photos sur la mise en avant de son corps.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
C'est extraordinaire parce qu'il a des femmes de différents milieux. Il y a une Claire de notaire qui dit « Tu es l'ange de mes nuits, la lumière de ma vie ». Il va y avoir Karine qui ne sait pas aligner deux mots. Il y avait Julie qui lui parlait façon manouche. Ensuite, il va y avoir Céline qui lui dit « Ramène-moi le pain ce soir en rentrant ». Et on voit qu'il passe de l'une à l'autre avec... c'est extraordinaire.
Jamel Lelmi a toujours plusieurs femmes sur le feu et une technique de pro. Sur ses photos, il est aux Antilles avec Céline. Mais une fois seul, il dessine ses cœurs sur le sable.
Il fait des cœurs dans le sable et puis il efface au fur et à mesure, puis il met des prénoms de jeunes femmes. Alors, c'est le même cœur, mais alors il change le prénom, on efface, on rechange le prénom et on voit qu'il envoie ça. Oui, si, il a ce côté flambeur, hableur, mais pas pour elle.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Il arrivait à cloisonner, à être extrêmement organisé et à ne pas du tout avoir la même personnalité selon la personne qu'il a en face. Donc il s'adapte, il a un côté assez caméléon.
Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016.
Il n'y a pas de mal à être séducteur. C'est pas, entre guillemets, un défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne. Parce que là aussi, si on suit ce raisonnement, on va mettre beaucoup de séducteurs en prison et commettre beaucoup d'erreurs judiciaires.
Mais la psychologue chargée d'expertiser Jamel Lelmi ne va pas s'en tenir au statut de séducteur.
Michel Agrapard-Delmas, expert psychologue.
D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur libertin, comme Sade ou comme Casanova. Je lui avais rétorqué qu'il y avait aussi Landru et que Sade était un pervers. Donc après, il a été moins gentil. Monsieur Lelmi, il a une emprise sur les gens. Et cette emprise qu'il a alimente son narcissisme, alimente sa suffisance. Il a une image, une estime de soi absolument incommensurable.
Conclusion de l'experte, personnalité manipulatrice avec des traits pervers.
Les pervers sont des menteurs, manipulateurs, qui utilisent les autres pour leur propre plaisir. C'est le cas de M. Lelmy. Il a toujours utilisé les autres pour son plaisir. Lui, il a transformé ses victimes en objets. C'était ça, son bonheur.
Quand il découvre ses conclusions, Jamel Lelmy explose.
Il était très en colère et nous a vraiment dit des choses très grossières, très agressives, très insultantes. Enfin, c'est allé très loin. Hein. Et là, il nous a montré un autre visage. Le visage d'un homme, là, il n'était plus manipulateur. Là, il n'était plus du tout séducteur. Là, il n'était que pervers.
La juge aussi découvre le caractère manipulateur du suspect, qui lui envoie lettre sur lettre pour guider son instruction.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Des fois, il m'écrivait des courriers assez virulents, et puis d'autres fois, des courriers qui me brossaient plus dans le sens du poil, pour que vous êtes une bonne juge. Je vous invite à continuer, à persévérer dans vos efforts. C'est aussi pour me déstabiliser, pour me montrer que je commets des erreurs de procédure, même si c'est pas le cas, mais je pense que dans son esprit, c'est un petit peu ça aussi.
Et si Jamel est aussi sûr de lui, c'est parce qu'il explique qu'il n'était pas avec Julie la nuit où elle a été agressée.
Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmy de 2011 à 2016.
Au moment où elle a son accident à Marrakech, Jamel n'est géographiquement pas à Marrakech. Il est à plusieurs centaines de kilomètres puisqu'il est à Casablanca.
Son alibi, c'est Céline, sa compagne. C'est avec elle et elle seule qu'il est parti au Maroc. Et elle le confirme aux gendarmes. Ce soir-là, ils étaient tous les deux à Casablanca.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Les réponses qu'elle va nous apporter, c'est des réponses qui tiennent la route. Elle ne fait pas le choix de se murer dans le silence. Elle réfléchit et elle réfléchit bien. C'est une femme très très forte et très très intelligente. Extrêmement forte, un caractère très très fort, Céline.
Laquelle des deux ment ? Julie, qui se serait fait un film ? Ou Céline, pour couvrir son compagnon ?
Céline, on ne la voit pas dans les montages financiers aussi, où elle est vraiment à l'écart là-dessus. On n'a pas trouvé dans son téléphone portable, par exemple, de traces des contrats. On n'a pas trouvé sa présence à côté des souscriptions des contrats. Donc, pas d'éléments matériels, on ne met pas en examen.
Dominique, la juge n'a rien trouvé côté français. Est-ce que ça avance côté marocain ?
Alors, côté marocain, c'est compliqué parce que les policiers n'ont fait qu'un PV pour l'accident de la route de Julie Derouette. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de témoin. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jamel et Céline ont pris ensemble un avion. Ils sont partis de Paris le 19 décembre pour Marrakech. C'est Céline qui a payé les billets d'avion avec sa carte de crédit.
Le soir de l'agression de Julie, Jamel et Céline prétendent qu'ils n'étaient pas à Marrakech, qu'ils étaient à Casablanca, c'est à 200 kilomètres.
Oui, alors c'est impossible à vérifier. Ils expliquent qu'ils ont fait le trajet en voiture de Marrakech jusqu'à Casa. Arrivés à Casa, ils ont cherché un hôtel. Ils n'ont pas trouvé d'hôtel. En fait, ça n'a jamais été vérifié.
Et la téléphonie ?
Alors la téléphonie, impossible de le savoir, malgré toutes les demandes envoyées par la juge française aux autorités et aux opérateurs marocains qui n'ont pas répondu. En revanche, la juge va trouver un détail intriguant. La carte SIM du téléphone portable de Jamel Lelmy. Au moment exact de l'accident de Julie Derouette, cette carte SIM, elle est glissée dans le téléphone portable professionnel de Céline. Alors, ça peut laisser supposer
qu'on essaie de brouiller les pistes.
Voilà, un scénario qui laisserait penser que Jamel et Céline sont partis tous les deux vers Casablanca, alors que Jamel était sur les lieux de l'accident puis de l'agression de Julie Derouet.
Alors Julie affirme que Jamel a fini par la rejoindre à son hôtel ce soir-là. Mm-hmm. Dans un hôtel, il y a bien des caméras de surveillance.
Ben là aussi, les enquêteurs vont être déçus parce que les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées. Il y a bien des témoignages à l'hôtel, des réceptionnistes qui se souviennent de la carrure de Jamel. On l'a vu passer. Il y en a un qui dit vers 22h, un autre 1h du matin, un autre 3h du matin. C'est pas exploitable.
Oui, alors autant dire qu'il n'y a aucune preuve matérielle de l'implication de Jamel Lelmy dans l'accident de Julie Derouet, ni d'une complicité de Céline.
Absolument. Il n'y a aucune charge contre Céline qui ne sera d'ailleurs jamais mise en examen.
Jamel Lelmy reste tout de même poursuivi pour assassinat sur Kathleen Vasseur et tentative d'assassinat sur Julie Derouet, mais sans preuve tangible. Ça va être compliqué devant une cour d'assises.
Si elle n'a pas avancé côté marocain, la juge espère toujours trouver une preuve de l'assassinat de Kathleen Vasseur sur la départementale 117.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Si on est dans une logique d'assassinat, il faut savoir comment elle est morte, de quoi elle est morte. C'est important de le savoir.
Mais son dernier espoir, l'expertise du corps après l'exhumation, va s'envoler.
Les éléments ont joué contre nous sur ce dossier. Il y avait une infiltration d'eau dans le cercueil. Ce qui fait que ce qu'on recherchait au niveau de l'ossioïde, au niveau de tous les éléments, sur peut-être une strangulation, sur des choses comme ça, on peut pas les trouver.
La juge n'a plus qu'un recours. Le 25 janvier 2012, 5 ans presque jour pour jour après la mort de Kathleen Vasseur, elle organise une reconstitution sur la départementale 117.
Au tout début, tout le monde est sur la route. Il y a les témoins qui sont présents. Voilà, on fait les appels. Et lui va sortir du fourgon. Et il a une réaction assez théâtrale, en fait. C'est-à-dire qu'il se met à hurler. Kathleen revient bébé. Il tombe à genoux et il se met à sangloter.
Jamel a choisi le silence. Les témoins qui sont arrivés après l'accident parleront à sa place. Mais qu'ont-ils vu exactement ? Un homme qui appelait à l'aide ou un homme caché dans le fossé? La juge a tout prévu. Avec 2 comédiens de même taille et de même poids que Kathleen et Jamel.
On se rend compte que c'est uniquement lorsqu'un couple de personnes va passer une première fois et va faire demi-tour 3 mètres plus tard, va revenir, va ralentir, et c'est lorsqu'ils sont quasiment arrêtés pour voir ce qui se passe que là, Jamel Lelmy va sortir du fossé pour les interpeller.
La juge demande aux témoins de décrire précisément la scène qu'ils ont vue.
Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris.
Et à un moment donné, l'actrice demandera à faire cesser cette reconstitution parce qu'elle a du mal à respirer.
Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
Et elle me dit, moi je me suis rendu compte que comme ça, dans cette position, j'aurais pas pu tenir longtemps en fait.
La première chose qui vient à l'esprit, ben, c'est que Kathleen a dû étouffer sous le corps de son mari en étant face contre terre.
Je pense qu'il y a une prise de conscience de pourquoi on a fait la reconstitution à ce moment-là de la part de l'ensemble des personnes. Parce que là, à ce moment-là, ça percute et c'est vrai qu'il y a un vrai silence à ce moment-là.
Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
De l'homme paniqué et éploré qui serre contre lui la femme qu'il aime, on bascule en réalité d'évidence sur celui qui était en train d'étouffer quelqu'un au fond d'un fossé.
Brigitte Thépot, mère de Kathleen Vasseur.
J'avais raison. J'avais raison depuis le début. C'est qu'elle a été tuée devant témoin, quoi. Ouais.
La conviction de la juge est faite. Le cœur de Kathleen s'est arrêté sous le poids et la pression de Jamel Lelmy. Mais cette conviction peut-elle tenir face à une cour d'assises?
Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmy de 2011 à 2016.
Donc dire qu'elle est morte étouffée, ça signifie que dans cette logique et cette hypothèse, elle aurait été étouffée et elle serait morte plusieurs jours après. Le lien de causalité, moi, me laisse perplexe.
La juge renvoie donc Jamel Lelmy devant les assises pour assassinat sur Kathleen Vasseur, tentative d'assassinat et escroquerie sur Julie Derouette. Et la bataille s'annonce serrée, entre une accusation qui manque de preuves et une défense qui a fait appel au meilleur pour plaider l'acquittement. Le procès s'ouvre le 28 avril 2014 à Évry, dans l'Essonne. La cour a un mois pour avaler les 12 000 codes du dossier et se forger une intime conviction. L'accusé, un mois pour sauver sa tête.
Dès l'ouverture du procès, Jamel Lelmy donne le ton.
Rémi Crosson-Ducormier, avocat général.
J'ai pas vu beaucoup d'accusés qui avaient un véritable comité de soutien. Il a un comité de soutien conséquent.
Thierry Derouette, le père de Julie.
Avec les banderoles et tout, comme si on était à la foire, quoi. Allez, allons-y.
Brigitte Thépeau, mère de Kathleen Vasseur.
On essaye de faire abstraction de tout ça, quoi. Mais dans la salle, c'était très pesant, parce qu'ils étaient là, quoi.
Jamel Lelmy veut l'acquittement et s'offre le service d'un cador en la matière.
Maître Jean Boudeau, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
Éric Dupond-Moretti, sur un dossier comme le dossier de Jamel Lelmy, on savait qu'on aurait une défense magnifique en face de nous et donc évidemment extrêmement difficile à combattre.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
On est dans l'artillerie lourde, très lourde. On sait qu'on va à la guerre et on n'est pas déçus.
Comme prévu, la défense pointe une à une toutes les failles du dossier d'instruction. Et en premier lieu, la présomption d'assassinat sur Kathleen Vasseur.
Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmy de 2011 à 2016.
Forcément, on n'a jamais eu une expertise qui a été capable de dire, contrairement au tout début, elle est morte du choc avec une voiture. Sauf que les experts n'ont jamais été capables de dire non plus qu'elle est morte étouffée. Et en restant comme ça au milieu du guet, on construit la vérité qu'on veut. Il n'y a pas une preuve directe, indirecte, contre Jamel Lelmy dans ce dossier.
Tout ceci ne serait qu'un complot ourdi par la principale accusatrice de Jamel Lelmy. La pression sur Julie Derouette est au maximum.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
C'est la pièce centrale du puzzle. Si elle ne va pas dénoncer, eh ben, y a rien d'autre. Donc si Julie s'effondre, le reste s'effondre.
Julie Derouette.
Je savais que j'étais la bête à abattre. Je savais que la défense attendait qu'une chose, c'était de me laminer, de m'insulter, de me rabaisser. Et je me suis dit, il faut que là, je sois la plus convaincante du monde. Il faut que j'arrive à faire comprendre aux gens le calvaire que j'ai vécu.
Pendant 4 heures, Julie raconte son histoire, avec toute sa naïveté, sa spontanéité et ses contradictions aussi.
Comment voulez-vous trouver de la cohérence, de la justesse dans ses déclarations? Elle dépose d'abord plainte sur un vol. Franchement, c'est abracadabrantesque. Elle est totalement incohérente sur sa relation avec Jamel et ce voyage au Maroc. On ne peut pas penser une seconde que cette fille puisse être crédible.
Je suis l'hystérique, la folle, celle qui s'énerve, celle qui insulte tout le monde. Et j'avais pas une attitude de victime. Ils m'ont brisée.
Pour la défense, la partie semble presque jouée. Mais c'était sans compter sur le témoignage de Karine.
Quand elle rentre dans cette salle, on voit une gamine.
Karine.
Je suis pas bien dans ma tête, je suis vraiment pas bien. Parce que moi, je suis toute seule, j'ai personne avec moi pour me défendre. Je suis contre tous les avocats, ils me regardent tous. C'est très dur pour moi de parler tout ça.
Avec son vocabulaire limité, Karine essuie les coups. Tout y passe. C'est une droguée, une menteuse.
Rémi Crosson-Ducormier, avocat général.
Elle était incapable de se défendre, elle était prise dans une ambiance qui la dépassait complètement. Elle a pleuré comme une enfant. Donc, elle correspondait absolument pas au profil que M. Lelmy voulait nous faire croire.
Maître Jean Boudeau, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
Il n'y a pas de défense possible face au témoignage de Karine. Cette jeune femme est tellement démunie qu'on ne peut pas douter qu'elle dise la vérité. Quand on va lui parler des assurances qu'elle a signées et qu'on va commencer à lui parler de millions d'euros, elle va avoir une phrase qui dit tout. « Mais moi, quand il y a trop de zéros, je ne sais plus ce que ça veut dire. »
Le témoignage de Karine vient brutalement éclairer le dossier.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
D'un seul coup, toute la puissance de la défense qui s'était acharnée depuis le début du procès à démontrer que Julie était une menteuse, une manipulatrice, une affreuse nana, on se rend compte que ça colle pas du tout avec Karine, quoi. Et donc, tout s'écroule.
Karine aussi s'écroule, submergée par l'émotion. L'audience est suspendue.
Au cours de ce procès, un autre témoignage va beaucoup frapper la cour, celui de l'expert en assurance.
Oui, un expert qui va venir à la barre pour dire que dans ce dossier, tout est hors norme. Ce qui relie Kathleen, Julie et Karine, ce sont les contrats d'assurance décès qu'elles ont signés, avec à chaque fois un seul et même bénéficiaire, Jamel Lelmy. 13 contrats au total, auprès de 9 compagnies, pour un capital total, tenez-vous bien, de 8 à 12 millions, ça relève presque du record de France.
Autre chose intrigante, c'est que Julie a 27 ans, Kathleen et Karine, 26 ans. C'est quand même un peu jeune pour penser à protéger sa vie.
Oui, et l'expert va l'expliquer. L'expert va dire que quand on signe ce genre de contrat d'essai, on a entre 40 et 50 ans.
Et puis alors, il y a cette étrange fatalité qui consiste à mourir ou manquer de mourir juste après avoir signé ses contrats.
Oui. Kathleen signe 4 contrats entre juillet et novembre 2006, elle meurt 2 mois plus tard. Julie signe 4 contrats en une semaine, on est en novembre 2009, elle frôle la mort 1 mois plus tard au Maroc. Quant à Karine, elle signe 5 contrats en un seul après-midi, 21 mai 2010. Et 2 mois plus tard, Jamel Lelmy lui propose un joli voyage avec lui.
À une semaine de la fin du procès, un troisième témoin vient asséner le coup de grâce. C'est une connaissance de Jamel Lelmy. Il s'appelle Yannick et son récit plonge la cour dans un autre monde.
Thierry Derouette, le père de Julie.
Il y a Yannick qui rentre, il y a un grand silence. C'est un mec, c'est un homme, quoi. Le mec, il doit faire 1m85, super costaud et il a la tête d'un bandit, c'est vrai.
Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
Ah, c'est pas un enfant de cœur. Voilà, c'est pas un enfant de cœur, il le dit, il l'avoue, il le reconnaît. Lui, c'est le monde de la nuit. Donc, il a d'ailleurs sa boîte de nuit et il a besoin d'argent. Et quelqu'un le met en relation avec Jamel Lelmy comme un prêteur d'argent.
Yannick explique qu'il a emprunté de l'argent à Jamel à l'automne 2009, quelques semaines avant l'agression de Julie Derouette au Maroc, et qu'il n'arrivait pas à lui rembourser sa dette. Alors Jamel l'a convoqué pour lui expliquer un plan. Yannick raconte que Jamel a enfilé des gants en latex avant de sortir des contrats d'assurance décès. La suite l'a estomaqué.
Tu vois, t'as une femme, t'as une maîtresse. Bah, tu choisis entre ta femme et ta maîtresse, hein. Et puis tu l'emmènes dans un pays du Maghreb, elle a un accident de voiture, tu mets sur elle une assurance d'essai, et il n'y a pas de problème, tu pourras me rembourser.
Thierry Derouette, le père de Julie.
Bah, je pense que ça bascule, le procès bascule, là. Parce qu'il y avait encore des doutes. Mais à partir du moment où lui, il est rentré, je crois que les doutes, ils sont partis, là.
Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur.
On est dans la description très exacte de la mécanique. Un contrat d'assurance décès, voyage à l'étranger, accident de voiture concernant sa femme ou sa maîtresse. Enfin, on est vraiment dans la mécanique criminelle de Jamel Lelmy. Il y a quelque chose de totalement effrayant que, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ailleurs. C'est pas tuer quelqu'un qui a de l'argent pour lui prendre. C'est prévoir de tuer quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien pour lui au départ, en le transformant en source d'argent au travers des assurances d'essai.
Rémi Crosson-Ducormier, avocat général.
C'est effectivement la préméditation la plus accomplie qui soit. Ces personnes étaient irrémédiablement condamnées à mort. Elles étaient condamnées à mort d'avance.
C'est sur ce mode opératoire glaçant, devant une cour médusée, que l'avocat général requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. La défense n'a pas le choix. Vaille que vaille, elle plaide l'acquittement. Après 6 heures de délibéré, la sanction tombe. Jamel L'Halmi est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 12 ans de peine de sûreté.
Karine.
Ça m'enlevait une boule à l'estomac. Je pense qu'il m'aurait rêvé la même chose que les personnes. Moi, j'ai échappé belle, surtout. À la mort.
Julie Derouette.
Quand j'entends le verdict, en fait, j'ai pas de mots, je tombe. Je fais un malaise. Donc je m'effondre parce que c'est 1 mois de procès, parce que c'est 1 mois de douleur, parce que c'est 4 ans d'attente. Et ma première vraie pensée, c'est pour Kathleen. Et je me dis vraiment, tu vas pouvoir reposer en paix.
Un verdict dont Jamel L'Halmi fait évidemment appel. Un an plus tard, en février 2016, rebelote, cette fois devant la cour d'assises de Paris, pour un verdict au final encore plus lourd. 30 ans, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Alors il se pourvoit en cassation, rejeté. Jamel L'Halmi est définitivement coupable. Mais reste une question. Qui l'a aidé ?
Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'Accusé consacré aux Barbes Bleues de l'Essonne. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.